très bien. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici, de partager ce moment avec moi. Je suis assez émue parce que, en fait, c'est la première fois dans ma petite carrière de 10 ans de maîtresse de conférence que j'interviens dans un séminaire autre que à l'Université de La Réunion. J'ai plutôt l'habitude d'intervenir en colloque. Et j'aime beaucoup ce cadre des séminaires. Pour une raison très simple, c'est qu'en général, on est moins nombreux, que les gens sont véritablement intéressés par le sujet du séminaire. Et donc, j'apprécie énormément votre invitation. Je vous remercie à toutes les deux de partager ce moment avec moi. La présentation de Randy, est, en ce qui me concerne, est suffisante. Hein, j'ai pas d'autre chose à ajouter. Je voudrais vous parler directement et plus simplement d'Adonis, puisque c'est le titre de mon intervention, du féminin en fait, dans l'œuvre poétique et visuelle du poète syrien Adonis. J'ai choisi ce sujet parce que Randy m'a dit qu'elle travaillait sur le genre et que je ne m'étais jamais véritablement penchée spécifiquement sur le féminin ou le masculin dans l'œuvre d'Adonis. Mais quand elle m'en a parlé, je me suis dit, ah, peut-être qu'on pourrait quand même dire beaucoup de choses sur ce féminin dans son œuvre. J'aimerais donc partager avec vous un regard, notamment celui d'Adonis sur le féminin, puis le mien aussi, sur Adonis et le féminin. Ces regards ne sont pas superposables et en fait eux-mêmes se modulent au gré des expériences, c'est-à-dire que ce que je peux avoir saisi du regard d'Adonis sur le féminin peut très bien évoluer aussi. Hein, je prends des pincettes et beaucoup de prudence pour évoquer cela. Il s'agit plutôt ici de les envisager, ces regards sur le féminin, comme des lunettes d'essai pour observer le féminin et la féminité, bien sûr, dans d'autres dimensions de l'existence. De même, donc, j'entrerai dans l'œuvre d'Adonis, dans son œuvre poétique et visuelle, comme on entre dans un observatoire, en fait. Et j'interrogerai de manière plus large l'usage théorique qu'on fait du féminin, le concept de féminin et de féminité, et plus concrètement, parce que la poésie est concrète, extrêmement concrète, voir comment on peut ressentir le féminin en soi-même, qu'on soit homme ou femme, bien sûr. Je vous propose donc une première partie de séminaire qui est une présentation simple. Je ne vais pas forcément entrer dans les détails parce que je ne connaissais pas le public qui viendrait. Donc j'ai présenté de manière générale et ensuite, j'aime beaucoup les échanges. On pourra dialoguer à partir de cette présentation ou de vos questions spécialistes ou non. J'évoquerai donc dans un premier temps le regard d'Adonis, celui qu'il porte sur le féminin tel qu'il se manifeste dans divers milieux et la féminité telle qu'il la conçoit. Ensuite, je vous propose d'entrer et d'observer ensemble son œuvre poétique, d'entrer dans son œuvre pour voir comment il révèle et célèbre le féminin et dans quelle mesure cette célébration remet en question les déterminations actuelles du genre. Et enfin, en tant que traductrice et de son dernier recueil poétique en ce qui concerne sa poésie, j'évoquerai mon expérience personnelle, comment la poésie d'Adonis a transformé mon regard aussi sur le féminin et la féminité. Comment, en fait, le passage de son style poétique au mien, de sa langue maternelle à la mienne, de son regard au mien aussi, me permet de faire quelques élucubrations sur le féminin, qui ne seront pas conclusives, j'espère, mais plutôt suggestives. Alors, j'ai rencontré Adonis en 2005 à Paris, et il intervenait dans un séminaire de Gilles Latkani à l'EHESS, et je faisais une thèse à ce moment-là sur le fantastique en contexte arabe. Et je m'intéressais énormément à la pensée soufie et mystique aussi, la pensée soufie plus précisément. J'avais donc lu en arabe son essai sur soufisme et surréalisme et qui m'était apparu à ce moment-là comme un ouvrage incontournable pour un occidental qui souhaite comprendre le soufisme. Alors à la fin de son intervention, je suis allée le voir et je lui ai demandé si je pouvais traduire son essai en français. Je l'avais jamais rencontré avant et donc c'était une entrée en matière un peu brutale en fait. Et il a accepté tout aussi simplement que mon entrée en matière. Et donc en 2016, 10 ans après pratiquement, nous avons publié cette traduction aux éditions La Différence. Et pendant ces années de traduction, je l'ai rencontré assez régulièrement. J'ai fréquenté davantage sa poésie que je ne connaissais pas quand j'ai traduit, quand j'ai commencé la traduction de son essai. Et puis j'ai écrit plusieurs articles sur son œuvre poétique et aussi visuelle. Alors, voilà, je pense que vous le connaissez, peut-être une ou deux personnes plus précises, plus certainement que d'autres, mais si on googlise son nom, hein, ce qui revient très souvent sur Internet, c'est sa biographie très succincte, très générale, que tout le monde sans doute peut connaître, et peut-être vous avez déjà entendu parler de ce poète. Je vais juste revenir sur cette biographie très succincte et reprendre à partir de ces éléments biographiques ce qui peut-être a pu conditionner, ou en tous les peut-être pas conditionner, mais en tous les cas apporter un regard sur le féminin qui est assez neuf, je trouve. Comme c'est écrit, hein, il est syrien, il est né en 1930, près de Latakia, au nord de la côte méditerranéenne, et il se fait connaître et change sa vie, hein, par un seul poème qu'il écrit, qu'il raconte, même encore dans cette dernière rencontre qui a eu lieu à l'Institut du Monde Arabe. Il avait été interviewé et il répète ce récit, cette anecdote qui est devenue presque une légende maintenant. Et donc il récite un poème au président Al-Khouatli, et le président lui demande ce qu'il souhaite, et lui dit qu'il souhaite étudier et aller dans une école française. Il va donc au lycée français de la région, et puis ensuite un deuxième événement qui sera fondamental dans sa vie, donc ce poème qui détermine sa vie poétique, et un deuxième événement qui est vers l'âge de 17 ans où il veut publier ses poèmes, et il change son nom, il met Adonis à la place de Ali Ahmad Esper, et à ce moment-là ses poèmes sont publiés dans une revue, et donc il gardera ce nom d'Adonis. Et dans sa vie privée comme dans sa vie publique, comme vous le savez. Et Adonis, eh bien, c'est une figure mythique. Adonis est dévoré par les sangliers, dont le sang se transforme en anémone et donne aux eaux de la rivière Ibrahim leur couleur rouge, couleur qu'Adonis aime porter, et on le voit souvent avec une écharpe rouge ou une chemise rouge ou quelque chose de rouge. Et voici ce qu'il écrit dans l'Orient littéraire en 2006. Cette légende me rendit vivant et mes textes furent dès lors acceptés. C'est aussi à partir de ce moment-là que l'écriture devint pour moi aussi bien un engagement qu'une expérience. Car bien au-delà d'un simple pseudonyme, Adonis me conféra une certaine distinction et m'ouvrit un espace plus vaste que l'espace de mon enfance, dominé jusque-là par la culture islamique et les poèmes arabes traditionnels. Ce fut une migration de la patrie de moi vers celle de l'autre. Dès lors, je ressentis un début d'ouverture, non seulement vers une nouvelle perspective d'écriture, mais aussi vers un engagement total dans le combat culturel. Il a donc émigré au Liban en 56, qui est un exil politique. À Beyrouth, il fonde des revues que vous connaissez peut-être, la revue Shir avec Youssouf El Khel en 57, puis la revue Mawakre en 68, qui en fait c'était de nouveaux espaces de création poétique, hein, destinés à renouveler la poésie arabe et à l'ouvrir aux influences internationales. Aujourd'hui, il vit à Paris. Il est l'auteur d'une trentaine de livres et de recueils de poésie. Il travaille, je crois, sur son autobiographie, qu'il essaye de terminer pour la publier très prochainement. Et son dernier recueil, qu'il a intitulé Adoniada, est en cours de traduction, c'est moi qui le traduis. Lorsqu'Adonis dit qu'il a émigré dans ce texte hein, que j'ai mis sur la diapositive, lorsqu'il dit qu'il a émigré vers la patrie de l'autre, cela renvoie évidemment à plusieurs types d'exil que sa biographie rapporte ici ou là d'ailleurs. Mais pour ce séminaire, j'aimerais que l'on s'attarde sur son exil en terre féminine. Je vais tenter d'expliquer de manière simple et rapide sa conception de la féminité et du féminin. Dans un ouvrage copublié en 2015 avec la psychanalyste Ouria Abdelwahed, intitulé « Violence et Islam », Adonis affirme avec élégance, poétiquement parlant, « L'univers est une féminité ». Une phrase qui m'a beaucoup touchée personnellement, qui est magnifique, qui est très simple, qui déconstruit un peu l'image qu'on a d'Adonis, qui est très élitiste, un poète souvent incompréhensible parce qu'il utilise beaucoup de mots très, très précis, très nuancés. Et ici, cette phrase, je trouve, elle parle directement et à tous. En associant ici la féminité à l'univers, Adonis ne réduit pas le féminin, pour moi, à une détermination de genre. Pas du tout. Celle que l'on a dit, alors je ne vais pas écouter les séminaires qui ont été faits ici, mais à mon sens, ce n'est pas de cet ordre. Et même si ce genre est défini en termes biologiques ou philosophiques ou anthropologiques, ici, il n'est pas vraiment question, à mon sens, de ce type de détermination. Je dirais que la féminité dont parle Adonis, dans cette citation, est informe et informée, je vais m'expliquer, elle est l'actualisation possible à chaque instant de la création. La féminité est l'actualisation possible à chaque instant de la création. Et on pourrait aussi dire de l'amour pour et du créateur. Cette féminité est donc une fécondité, une créativité, elle est amour. Dire, poétiquement parlant, l'univers est une féminité pourrait se traduire par une autre phrase, aussi en français, physiquement parlant, l'univers est un champ unifié. Et je prends cette phrase, comme le proposent certains physiciens contemporains, à la physique donc, parce que souvent, quand je discutais avec Adonis, je lui disais que le soufisme nous emmène vers une spiritualité et il est très très prudent et il m'a toujours ramené vers ce qu'il appelle le matérialisme et il me dit non mais moi je suis matérialiste, extrêmement matérialiste. Et pour moi dans ma conception matérialiste c'est l'utilisation et l'usage de la matière, le profit, la rentabilité, c'est le consumérisme et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il me ramenait sans cesse à la matière. Alors maintenant, j'ai un peu plus compris. Et je fais ce parallèle avec la physique parce qu'il ne s'agit pas d'inventer ou de croire ou de se faire une image d'un dieu ou d'une spiritualité qui nous emmène trop loin dans l'abstraction. Contrairement à ce qu'on a pu lui prêter, encore une fois, je le répète, sa poésie peut être très intellectualiste, a priori, elle est avant tout pour moi maintenant extrêmement matérialiste et très simple, si on la lit avec un autre regard. Donc ce parallèle me semblait intéressant. Physiquement parlant, l'univers est un champ unifié. Je pense que ça pourrait être une traduction d'une discipline à l'autre. Je vais y revenir, mais poser une question avant. Comment voir ou percevoir cette féminité dans l'univers ? Puisque si c'est matériel, on pourrait la voir, hein. Enfin, si il y a quelque chose de matérialiste. Je dirais que, pour commencer, et du côté de l'incarnation et de la matière, je dirais que certaines femmes lui ont donné forme. Il a existé en Irak une femme mystique de l'islam, née au 8e siècle, à Bassora, connue jusqu'à ce jour pour être le modèle de l'amour désintéressé et reconnue même par ceux qui par ailleurs méprisait les femmes et qui est considérée comme un exemple de cette féminité. Adonis la connaît et la cite dans son œuvre. Il s'agit de Rabi'a al-Radawiya. Dans les propos sur la sainte publiés par Salah Stetier, un autre poète libanais, l'un d'eux témoigne ce que l'on lit sur la diapositive, le mystique Hassan al-Basri lui demanda « Te marieras-tu un jour ?» Elle répondit « Le mariage est souhaitable à qui a la possibilité de choisir. Moi, je n'ai pas le choix. J'appartiens à mon Seigneur et je me tiens à l'ombre de ses commandements. Hors de cela, ma personne ne compte guère. Et comment es-tu parvenu à un tel degré de détachement » dit-il. Par mon extinction dans le tout. Nombreuses sont les anecdotes qui rapportent les efforts répétés de la sainte pour se détacher de sa personne, de son ego. Mais cette anecdote a retenu mon attention car elle distingue le mariage social et civil des égaux et les épousailles intérieures, ce que j'appellerais les épousailles intérieures, avec soi-même et le tout. Et à travers cet exemple, on voit que la féminité est l'espace libéré de l'ego. C'est ainsi que je le formulerai. Un espace fécond, autrement dit. Un espace qui ne serait plus gouverné, maîtrisé par l'ego. Un espace libre de cette tyrannie de l'ego. C'est un espace, je pourrais dire aussi, de liberté libre, en reprenant cette expression à Rimbaud, très belle expression. Cet espace de liberté libre où peuvent naître une nouvelle vision et une nouvelle compréhension de l'univers. En d'autres termes, je le reprends ici, c'est un champ unifié dans lequel n'interviennent pas les résistances et les calculs de l'ego. Rabi'a est l'une de ces femmes rebelles et pionnières de la mystique musulmane à s'être unie à cet espace d'amour divin tout à fait comparable à l'univers dit connecté aujourd'hui chez les physiciens. Dans les deux cas, me semble-t-il, c'est voir la structure de l'espace, non pas de manière figée, mais en mouvement constant. Cet espace est celui d'un sujet plus vaste que celui de l'ego et qui ne s'oppose pas à l'objet. En ce sens, la poésie mystique, elle rivalise avec les préceptes coraniques qui n'accordent à la femme qu'un statut figé, celui de la soumission à l'homme. Je cite ce verset de la sourate Les Femmes, verset 34. Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles. Ou bien encore, elles sont considérées comme un lieu de jouissance, ce n'est pas mon expression, je cite, un lieu de jouissance comme dans la sourate La Vache, verset 223, « Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voudrez. » Face au texte, au Coran, face à ce texte, au livre El Kitab, vous savez peut-être que Adonis a écrit un recueil de poèmes qui, en trois volumes très très longs, traduit par Aouria Abdelwahed, qui s'intitule El Kitab. Face au texte, à ce texte sacralisé, Adonis fait le constat suivant. La femme ne s'appartient plus. Elle est devenue l'objet de l'homme. L'islam a séparé de façon radicale la masculinité de la féminité. C'est dans « Violence et Islam », page 82. Ainsi, dans la continuité des soufis et des surréalistes, non seulement Adonis s'inspire de ces modèles féminins, comme celui de Rabi'a, qui ont eu la force et le courage de transgresser les préceptes coraniques. C'est donc Rabi'a, Aïcha, Fatima, et aussi, il aime beaucoup, Saja. Mais surtout, Adonis entre en poésie. Il n'y a pas que ces exemples qui ont vécu historiques et ces femmes qui ont incarné la féminité d'une certaine manière, avec beaucoup de force et de courage. Adonis Autreux entre aussi en poésie pour explorer davantage cette féminité qui féconde et favorise la liberté libre. En effet, si certaines figures féminines de l'histoire sont des exemples de féminité, elles ne nous permettent pas forcément du moins, d'explorer par nous-mêmes cette féminité. Comment donc, toujours la même question, comment donc la voir ou la percevoir dans l'univers? Adonis pense que nous pouvons l'approcher un peu plus par la poésie. Voici ce qu'il dit et que qui est extrait de Violence et Islam. Comme la poésie, le féminin est essentiellement contre la religion. La poésie est l'opposé de l'esprit religieux. Pourquoi ? Parce que la religion est une réponse. En revanche, la poésie est une question et comme telle, elle est aux antipodes du pouvoir. Dans ce sens, il existe une grande affinité entre la poésie et la féminité. Ici, cette affinité relève de la liberté. Et de manière générale, les discours d'Adonis dénoncent l'emprise de la religion sur les trois pôles d'organisation sociale que l'on connaît tous, à savoir le rapport au salut, le rapport à la loi et le rapport à la vérité, qui ne sont pas juste forcément au niveau social, quelle que soit l'échelle, même individuelle, ces rapports organisent notre vie. Et dans cette hiérarchisation des rôles et des pouvoirs, il existe plusieurs échelles de liberté. Ainsi, Adonis distingue la liberté libertine, l'homme de l'islam, dit-il, est un libertin, de la liberté libre, incarnée par le poète, notamment, la figure du poète. La liberté libertine est fondée sur la possession, c'est mon mari, ma femme, une sorte de pensée possessive, c'est-à-dire la jouissance du pouvoir sur l'autre. Et donc on a effectivement un féminin et un masculin qui sont objectivés et qui sont désincarnés de quelque chose de plus sacré. Et l'autre, c'est-à-dire la liberté libre, est fondée non pas sur la possession, mais sur la puissance d'éveil. L'une génère des statuts, nos hommes en arabe, l'une génère des statuts dans la société, des statuts vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis, dans la famille, et l'autre suppose des stations. Et on retrouve ici le titre qu'il a donné à une de ses revues, Mawakrif, des stations, et les stations ne sont pas des statuts, ne sont pas figées les stations. On passe d'une station à l'autre, passer d'un statut à l'autre un peu plus difficile dans la société. Bon, n'allons pas croire pour autant que cette répartition du pouvoir est spécifique aux sociétés arabo-musulmanes. Il suffit de se rappeler ici les études très denses et magnifiques du philosophe Michel Foucault sur la pastorale chrétienne, qui sont vraiment, vraiment très importantes, je trouve, et que j'aime rappeler, parce que souvent on pense que c'est spécifique à la religion musulmane. Adonis parle de ce qu'il connaît, mais Michel Foucault a dit à peu près la même chose en parlant de la pastorale chrétienne. Et du pouvoir pastoral, hein, le berger, les moutons qui aiment leur berger, et ce pouvoir de domination, d'objectivation. Les conclusions d'Adonis, comme celles de Foucault, s'accordent sur l'idée que l'une des premières formes de contre-conduite pastorale, que Foucault date du Moyen-Âge pour l'Europe, et qu'Adonis, lui, affilie à la poésie depuis la période pré-islamique, donc bien avant l'islam, et puis qui est essentiellement une poésie soufie depuis la naissance de l'islam, c'est précisément la mystique. Et tous les deux se rejoignent sur cette idée que une contre-conduite pastorale, l'un des plus grands exemples, c'est la mystique, ou tout type de mysticisme. Comme le dit Foucault très joliment, et je reprends son expression, l'art de n'être pas tellement gouverné. Donc gouverné, mais pas tellement. Et qui me semble être tout à fait ici. Il ne s'agit pas d'être un rebelle et de rejeter un système, parce que ce n'est qu'un autre système qu'on construit finalement, tout aussi figé. Et je crois que cette question du genre, c'est un peu le ping-pong. Et toute l'histoire de la féminité, du féminisme, joue sur ce ping-pong quand on n'arrive pas à sortir justement de cette idée d'objectivation et d'objet. Comme le note Éric Geoffroy dans son ouvrage sur le soufisme, je le cite, « Les femmes se sont souvent portées vers la mystique, où elles pouvaient trouver plus facilement un espace de liberté que vers les sciences exotériques. La spiritualité sous ses diverses formes ne relève-t-elle pas de l'intuition dite féminine, par contraste avec les sciences religieuses rationnelles qui conviendraient plutôt à l'homme. Il pose ici une question. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans son œuvre pour voir comment se révèle le féminin. En quoi pouvons-nous dire qu'il y a du féminin ? Le « il y a » suppose que le féminin est situable et localisable. Nous allons voir qu'il n'en est rien et que toutes les représentations artistiques ou mystiques n'ont été que des coups d'essai, comme dirait Montaigne, pour l'appréhender et le cerner mentalement. Peut-être est-ce la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a que la poésie qui peut véritablement l'approcher et en parler, car le poème est à l'image de la femme, du féminin. Un exemple visuel, pour commencer, une œuvre graphique d'Adonis qui est le prolongement du poème et qui est une tentative d'élargir l'accès au poème à la femme. Dans Violence et Islam, Adonis dit que tout lieu commandé par la seule virilité est stérile. Ou encore, l'homme sans la féminité et sans cette dimension du féminin devient une machine. L'œuvre projetée en est une illustration. Au premier coup d'œil, on voit un être humain. Ses yeux sont des boulons. La partie inférieure de son visage est cachée par un bout de tissu qui l'empêche de parler. Le tout donne l'impression d'un être machine. Alors, je me permets de reprendre ici une analyse que j'ai suggérée dans un article qui vient de paraître dans cette revue, non ? Qui est un dossier sur Adonis, qui publie un dossier sur Adonis. Et quand j'ai fait lire à Adonis cette partie, cet article, il m'a dit que ça lui correspondait. Donc je me permets ici de la... Parce que bon, les analyses sur les peintures, ce n'est pas non plus ma spécialité. Et on peut toujours interpréter et dévier facilement. Hein. Donc je me permets de vous la transmettre et de la partager parce que, voilà, Adonis m'a donné le feu vert d'une certaine manière. Donc, cet article est intitulé « Voir le poème en toute chose ». Alors, on peut y voir le constat ici d'Adonis. Sans féminin, l'homme devient une machine. Car on ne voit aucune marque féminine ici, immédiatement apparente. Le noir hypervisible attire le regard et semble figer la représentation dans un aspect très masculin, ne serait-ce que par le vêtement. Et second niveau, en arrière-plan, qui est peut-être le niveau le plus intéressant pour moi, le poème, qui est recopié à la main par Adonis, c'est un poème, comme je l'ai écrit là, de l'Arche al-Kabir. Al-Kabir, je me suis trompée, c'est pas... qui est du 7e siècle, qui est mort vers 629, et qui évoque le départ de la bien-aimée, qui est un topos de la poésie pré-islamique et qui constitue une partie de la Krasida, du poème. Et voici ce que dit le poète. « Dis adieu à Oureira, la caravane s'ébranle. La bien-aimée, dit le poète, se dérobe à nous. Et le départ et l'éventuelle absence de la femme et du féminin pétrifie l'amant, pour ne pas dire le masculin. Et le féminin inscrit dans le cadre ici est donc invisible et en même temps lisible. Il est invisible parce qu'il n'y a pas d'image et il est lisible par le poème, dans le poème. Sur le collage, Oureira est donc poétique, elle est dans le poème et invisible. Et c'est sans doute ici une métaphore, enfin je vais donc le dire, pas arrêter de prendre des précautions puisque Denis m'en a offert, une métaphore de, je dirais une métaphore de l'amour insaisissable, mais plus simplement dans ce collage, elle est l'indice de la poésie. Adonis donne ici à voir cette affinité entre poésie et féminité. Ce noir qui attire le regard domine et occulte l'écriture poétique. On peut penser que l'homme noir est la représentation du poète attristé et qui se fige au moment des adieux. Il est celui qui parle de Oureira, de la bien-aimée, en tant qu'objet de son amour. Comme si en fait l'opacité du monde représenté est hyper visible, hyper masculin, cachait sa propre essence poétique, c'est-à-dire sa féminité. L'opacité ici serait la confusion du sentiment amoureux fondé sur la séparation avec la femme objet et toutes les souffrances que tout le monde connaît. Jusqu'à quel point donc l'image et la métaphore, pas simplement l'image, l'image et la métaphore, peuvent-elles alors se lire comme une voie d'accès à l'invisible et au féminin, qui, comme on rêvera, échappe au moment même où le regard la surprend. Peut-être que cette féminité est là, dans cet insaisissable, dans cette, ce qui est fuyant et qui crée un mystère en même temps. En somme, ce collage nous invite à discerner la part présente et invisible du poème en nous, c'est-à-dire à ressentir au-delà de la séparation l'union avec l'invisible et le féminin. C'est une lecture très symbolique que je propose ici, mais elle pose une question très concrète, puisqu'il ne nous est pas donné de voir le féminin avec les yeux. Que signifierait discerner la part du poème en nous, la part féminine ? En effet, cette féminité désigne le non encore formé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure informe et informé. Le non encore formé, ce qui peut advenir. J'ai choisi une autre œuvre graphique exposée à Shanghai en 2017, qui est très récente. Contrairement au noir, souvent oppressant, terrifiant, désespérant, les touches de bleu ici instaurent une légèreté, de la fluidité, une certaine luminosité aussi. Pour cette exposition intitulée « Blue Dialogue », il y a tout lieu de penser que le bleu est ce lieu où l'horizon devient commun à tous, ce lieu où la terre et le ciel s'embrassent et parfois se fondent l'un dans l'autre, comme dans cette composition qu'on voit sur la diapositive, où le bleu océan s'étale joyeusement à l'horizontale, créant des vagues. On ne voit pas très bien, on voit plutôt du noir, mais c'est un bleu en fait, un bleu plutôt turquoise, et on voit donc qu'il s'étale à l'horizontale et il crée ces vagues d'écriture qui entourent cette tache de bleu, et où les verts embrassent et enveloppent le bleu de tous les côtés, comme s'ils buvaient les couleurs. La luminosité de ce bleu-vert presque transparent inonde quelques taches noires et qui les transforme, on le voit peut-être, mais on ne le voit pas, qui transforme donc ces taches en fractales. Du moins, cela m'a fait penser à ces fractales infinis qui rappellent d'autres formes marines et à d'autres échelles. Comme le remarque dans la préface du catalogue de cette exposition Yang Liang, les choses, les pensées et les langages coexistent. Les choses, les pensées et les langages coexistent dans l'œuvre d'Adonis. Et j'ajouterai que cette coexistence révèle la problématique fondamentale du manifeste et du caché, plus que celle du fond et de la forme à laquelle nous avons beaucoup réfléchi au XXIe siècle et même encore aujourd'hui. Je pense que la question du fond et de la forme reste extrêmement abstraite et beaucoup moins efficiente quand on veut parler du réel et de la réalité. Donc effectivement, très souvent dans ses essais, dans ses écrits, Adonis reprend et recadre plutôt refocalise notre regard sur le manifeste et le caché. Cela pour dire que la part du féminin n'est pas tant situable, comme je le disais tout à l'heure, dans le visible, que finalement dans ce qui se manifeste à nous, que ce soit visible ou non. La singularité féminine de cette œuvre tient à sa nature plastique, au sens de « qui se modèle librement ». Ici, ce qui peut jaillir en nous et se manifester en nous, c'est une infinité de lectures possibles, tout d'abord, à prendre comme telle, comme une chose. C'est cette part de liberté que l'œuvre graphique offre à celui qui l'observe et qu'il ne tient qu'à lui-même d'explorer ou non, ou pour le dire autrement, de pratiquer, je reprendrai l'expression de Foucault, cet art de ne pas être totalement, tellement gouverné par les formes, par les sens immédiatement visibles de et dans l'œuvre. Dans l'histoire qui se déchire sur le corps d'une femme et publiée en 2008, qui est un recueil de poèmes, le poème se présente comme, c'est un long poème, qui se présente comme une pièce de théâtre antique avec un cœur, un homme, une femme et son enfant. L'homme lit un livre et le feuillette tout au long du poème, la femme mère raconte son histoire et sa rencontre avec elle-même, et la fin est très brutale. Les gens lapident la femme et son enfant. Cette femme fait référence à l'histoire d'Agar, Ajar, je sais pas comment on dit en français, l'esclave égyptienne qui doit pallier à l'infécondité de Sarah et donner une descendance à Abraham. Elle ne pourra pas jouir de sa féminité et de sa maternité. Elle sera expulsée. Ajar, l'esclave dont la racine étymologique signifie l'exil, est chassée avec son fils Ismaël. Il y a beaucoup à dire sur ce texte poétique qui est magnifique. Je souhaite seulement mettre l'accent ici sur le corps. Dès le début, le cœur interpelle les poètes, comme on le voit ici. Écrivez aux poètes et chantez. Seuls nos corps ouvrent les chemins de l'invisible. Et là, on retrouve ce que Adonis appelle le matérialisme. Cette idée que finalement, l'invisible, l'inconnu, le mystère ne peut pas être saisi par le mental. Même si le mental veut toujours saisir, il ne peut pas. C'est insoluble. Seul pour Adonis, le corps peut entrer dans cette part invisible et inconnue qui fait peur, qui est terrible. Puis la femme surenchérit par la suite. Mon corps est ce que je vois et ce que je ne vois pas. Mon corps est mon départ et mon commencement. Mon corps est tout ce dont je me souviens, ce que j'explore et lis. Et en le lisant, c'est une phrase de Rimbaud qui me revient et que j'avais pas fait le rapport en l'écrivant. C'est comme quand Rimbaud dit « Je suis caché et je ne le suis pas ». Qui est une phrase qui me plaît beaucoup, parce que c'est exactement cela. C'est bien, non pas le fond, la forme qui ici est mis en avant, mais le manifeste et le caché. Et le corps ne ment pas, en fait, contrairement au mental qui peut penser que le fond, la forme, c'est ceci, c'est cela, orienter, gouverner, mettre tout dans des cases ou pas de cases. Ici, le corps ne ment pas. Toute la poésie d'Adonis revient sans cesse au corps, comme à la première scène de l'existence. Comme ici dans ce poème. Dans ce recueil, il insiste sur l'idée que la femme est renouvellement et désir. Un désir qui n'est pas uniquement mental, évidemment, et un désir qui passe par le corps. Et il compare le corps à, je le cite, l'argile d'amour. Le corps de la femme est précisément ce qui se laisse modeler, pas juste le corps physique, et le corps que l'on voit, mais aussi le corps invisible, celui qui se crée et qui est fécond. Depuis que je lis la poésie d'Adonis, c'est précisément cette capacité qu'ont les choses, les pensées et les langages à se modeler spontanément entre eux qui m'a le plus retenu. Comme si cette matière littéraire poétique était vraiment malléable. C'est peut-être cela qui fait que l'autre jour, je discutais avec Richard Jacquemont, qui connaît la poésie d'Adonis, évidemment, et qui me disait qu'il appréciait d'autres formes poétiques, que chez Adonis, il faut faire un effort pour entrer dans sa poésie. Et c'est tout à fait vrai. L'effort qu'il faut faire pour entrer dans la poésie d'Adonis est le même que celui que l'on doit faire pour se retrouver, pour entrer dans ce qu'il appelle ce matérialisme, ce corps que l'on ne connaît pas. C'est un effort qui nécessite une ouverture, pas simplement du mental, au contraire, mais un autre type d'ouverture. Je me suis donc intéressée non seulement à la représentation du corps humain, mais ça reste très mental, quelle est l'image que s'en fait le poète, mais aussi à la manière dont le poète modèle son langage, à travers le rythme, les formes, et les sens. Et Adonis porte beaucoup d'attention à la métaphore qui, dit-il, est une ouverture, une voie d'accès à l'invisible et au féminin. La métaphore est un langage, elle n'est pas une simple image. Et donc, cette poésie, souvent taxée d'élitiste, difficile d'accès parce que les mots qui la composent portent eux-mêmes une histoire complexe, un sens inusité, ou bien ils sont polysémiques, n'est effectivement pas facile, peut être rebutante. Et pourtant, lorsque je me suis mise à traduire ces poèmes, j'ai constaté que cette liberté n'était pas uniquement métaphorique. Lorsque parfois je réécris le poème plus que je ne le traduis, Adonis me suggère éventuellement de remplacer un mot en me demandant toujours ce que j'en pense, et ça m'a beaucoup émue, cette façon de me laisser cette liberté, de modeler en fonction du langage que j'ai, moi, à ma disposition, de ma compréhension, de mon histoire. Cette liberté d'écriture s'accompagne aussi d'une certaine souplesse de la perception. Sa poésie m'a appris à renouveler mon regard. Il est difficile de figer cette poésie dans une représentation et une pensée univoque du monde, car Adonis raconte sans raconter, parle sans parler et voit sans voir. La plupart de ses récits sont des récitations, sa voix se mêle au silence et ses visions prennent forme dans les plus grandes ténèbres. Comme je le disais dans un échange avec Patrick, c'est-à-dire que il y a des moments où je suis en présence d'Adonis et un silence s'installe et il n'y a aucune gêne. Et c'est comme si on parlait autant qu'avec les mots. C'est très rare à mon sens de ne pas être gêné par un silence. Et il connaît le silence parce que c'est... Souvent, on en a peur. Il n'en a vraiment pas peur. Adonis m'a dit, et dit, je pense, pas simplement à moi, qu'il n'a jamais appris à écrire un poème. Mais il a toujours écrit des poèmes, et ce faisant, il a exploré sa part de féminin, je n'en doute pas. Évidemment, traduire Adonis m'amène à en faire de même et transforme mon regard sur la féminité. Elle m'apparaît aujourd'hui comme un espace fécond pour tout le monde, où tout peut advenir. À la différence de Judith Butler, que j'ai lu à quelques rares occasions, mais je ne suis pas une spécialiste, encore une fois, du genre, elle suggère, je le rappelle, de déterminer le féminin et le masculin comme des performances, pour le dire vite. Il me semble que la poésie d'Adonis invite à les considérer non pas comme des performances, mais des exercices physiques, des exercices. Évidemment, on n'aime pas ce mot « exercice », on préfère « performance », parce que c'est un terme moi-même qui m'a un peu retenu, ce mot « performance ». Je me suis dit, nous sommes toujours dans cette conception du monde où on a quelque chose à gagner dans une performance. Dans un exercice, je ne suis pas certaine qu'on ait quelque chose à gagner. C'est long, c'est laborieux, c'est fastidieux, c'est des efforts. La performance, on a une sorte de reconnaissance, on est performant. Dans l'exercice, il n'y a pas cette idée de reconnaissance, de performativité. La nuance me semble traduire l'enjeu actuel de certains changements dans nos sociétés. Je vais juste donner quelques pistes. Là où la performance génère de la concurrence et des conflits qui répondent à des modèles, des schémas, l'exercice engendre des tentatives d'adaptation, des tentatives qui répondent à des manières d'être. Là où la performance invite au dépassement, l'exercice invite à remettre l'ouvrage sur le métier. Pour ma part, le féminin et le masculin ne relèvent donc pas d'une performance où on doit être quelqu'un, où se joue et s'accomplit une identité, voire une reconnaissance. Ils sont à rebours de toute identification, une tentative d'être et d'exister pour trouver son style, celui qui sera le plus en accord avec notre réalité. Je vous remercie.